I will also speak in French, but I have a few copies of a written version in English of what I am more or less going to say. Donc je vais vous exposer un certain nombre d'idées et de débats qui ont eu lieu dans le groupe de travail de Eurosciences sur l'accès libre aux publications scientifiques. Eurosciences étant une association qui regroupe au niveau européen des chercheurs et des acteurs des politiques de recherche à titre individuel. Mais c'est un débat qui est également apparu dans d'autres lieux de discussion sur l'accès libre. Et en le faisant, je vais à la fois m'appuyer sur ce que Hervé et Jean-Claude ont dit, mais en même temps, je vais parfois mettre en question de façon un peu provocatrice un certain nombre d'hypothèses communément admises sur les publications scientifiques. Alors, au sein des gens qui sont d'accord que l'accès libre aux publications scientifiques est une bonne chose, il y a en fait des vues divergentes sur la tactique ou la stratégie et même sur les buts de l'accès libre. Et il y a deux principales écoles de pensée, c'est bien sûr caricatural de simplifier à deux écoles, mais la première école de pensée met l'accent sur l'archivage, la mise en ligne des preprints, c'est-à-dire des articles avant qu'ils soient publiés et des articles après leur publication et leur mise à disponibilité sur Internet, que ce soit sur des archives, des sites personnels des chercheurs ou à travers des archives institutionnelles. Alors, un représentant typique de cette école de pensée dans Eurosciences, c'est Stephen Harnad, qui est qui fait un travail assez extraordinaire de promotion de l'archivage des publications scientifiques en accès libre. Il y a un autre groupe de personnes qui sont aussi des soutiens de l'archivage et de la mise en accès libre des publications à travers les archives, mais qui veulent aussi développer de nouveaux modèles de publication, y compris une nouvelle économie ou de nouveaux mécanismes de financement pour les organismes qui effectuent ces publications. Et je crois qu'il s'agit d'une différence qui dépasse un simple choix tactique, hein, ou un choix de si on a envie ou pas de s'affronter frontalement à Reed Elsevier ou à quelques autres éditeurs. En fait, je pense qu'il s'agit d'une sensibilité ou d'un choix qui est étroitement lié au sujet d'ensemble de cette conférence, c'est-à-dire la relation entre les créateurs, ici les créateurs de connaissances scientifiques et de publications scientifiques, et un public plus large. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais en dehors de cet aspect, c'est aussi un débat qui, comme Jean-Claude l'a déjà expliqué, va avoir une influence importante sur le fonctionnement de la communauté ou des communautés scientifiques elles-mêmes, et en particulier sur le fait de savoir si elles vont ou pas établir un contrôle d'un certain nombre des conditions clés de leur activité, la construction de la réputation, de la reconnaissance, mais aussi la définition des sous-champs scientifiques, ou si ces paramètres fondamentaux de leur activité, elles vont continuer à en laisser le contrôle à des acteurs externes aux communautés. Alors, je vais vous proposer une petite loi scientifique en matière de communauté, c'est que celles qui se bagarrent simplement pour avoir une reconnaissance étroite de leur autonomie, qui disent « moi, voilà comment je fonctionne, j'ai juste besoin d'une petite île qui me rend ce fonctionnement autosuffisant », Je veux surtout pas essayer de transformer le monde autour de moi parce que ben, c'est très difficile et je ne veux pas commencer à amener dans la discussion toute une série d'acteurs externes qui vont perturber mon fonctionnement. Ben, moi, je crois que ces communautés ont toutes les chances de voir leur autonomie transformée en fiction. C'est-à-dire qu'elles vont à la fois perdre la réalité des bénéfices de l'autonomie et elles vont aussi évidemment passer à côté de nouvelles formes de reconnaissance et de relations avec un public plus large. Alors, comment est-ce que je suis arrivé à cette formulation? Ben, j'ai remarqué que les gens qui sont de façon affirmée en faveur d'un pur modèle d'archivage pour l'accès libre, il y a un argument clé dans leur discours, bien que ça ne soit pas évident que ça soit lié, c'est qu'ils disent « les publications scientifiques ne sont destinées qu'aux chercheurs scientifiques spécialisés du même domaine ». Et c'est une... là, je ne vais pas arriver à vous le dire en français parce qu'on n'a pas vraiment d'expression pour ça, mais c'est vraiment « self-fulfilling prophecy ». C'est-à-dire, si on croit ça et qu'on organise le monde de la publication scientifique comme ça, c'est forcément vrai, parce que les acteurs scientifiques écrivent à ce moment-là des publications qui ne peuvent être lues que par les acteurs du même domaine spécialisé et qui d'ailleurs ne seront diffusées qu'à eux. Je crois qu'il y a déjà aujourd'hui des éléments qui montrent que la naissance des publications en accès libre et leur développement changent au-delà de simplement rendre les publications accessibles, change qui les lit et à plus long terme changera comment elles sont écrites. Et ça modifiera aussi la granularité et les frontières sous-champs scientifiques qui sont ceux qui correspondent, disons, à la carte d'entrée dans la reconnaissance comme membre de la communauté scientifique et en particulier aux carrières. Aujourd'hui déjà, il y a plus de scientifiques qui lisent des articles dans d'autres disciplines que la leur, grâce aux publications en accès libre, entre autres, hein, c'est pas le seul élément. Et il s'agit d'un développement qui est extrêmement important parce qu'il apporte un petit début de solution à un énorme problème de gouvernance sociétale en matière de choix de politique scientifique ou de politique de développement technique, problème qui vient de l'incroyable crédibilité des chercheurs scientifiques à l'égard des travaux faits par des gens connus dans des domaines autres que le leur. Si on voit les grands dysfonctionnements de l'évaluation scientifique dans le siècle qui s'est écoulé, on peut voir que des gens qui étaient pourtant d'une rigueur extrême dans la vérification de la, de, qui,